Alors, ce matin, vous ne serez pas surpris de savoir que nous allons faire une lecture vers la fin d'un des évangiles. Et donc, nous allons lire ensemble le dernier chapitre de Luc, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre et s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ?» Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus, et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors pour nous, lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, lorsque ce matin on a parlé de cette résurrection qu'on a priée et qu'on a mentionné à plusieurs reprises, cette résurrection, cela nous semble une évidence. On ne le remet pas en question. Mais encore une fois, c'est important lorsqu'on lit ces passages de se mettre à la place des personnages qui se trouvent dans cette histoire, de se mettre à la place des disciples ce jour-là. Et là, on se rend compte que pour nous, ça peut sembler une évidence, 2000 ans plus tard, mais pour eux, la résurrection de Jésus était tout sauf évident. Nous, on le lit et on hoche la tête lorsque Jésus dit « Oh, gens stupides qui ont du mal à croire ce que disent les Écritures. » Mais finalement, quand on se met à leur place, certes, il y avait eu quelques personnages dans l'histoire qui étaient revenus à la vie. Il y avait des histoires autour des guérisons, de résurrection faites par Élie et Élisée. Il y avait l'histoire de Lazare qui venait d'avoir lieu. Mais l'idée vraiment que la résurrection des morts qui avait été annoncée et que les Juifs croyaient aurait lieu au dernier jour, rappelez-vous, le jour où Jésus a ressuscité Lazare, sa sœur lui avait dit « Oui, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. » L'idée que ce temps-là puisse être en train de se réaliser était encore loin des pensées. Après tout, dans 1 Corinthiens 15, versets 12 et 20, Paul souligne le fait que Christ est le premier d'entrer dans ce temps de la résurrection des morts. Verset 12, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Pour nous, c'est assez facile, 2000 ans plus tard, de dire « Bah oui, Jésus est ressuscité. » Mais quand on se trouve là, au moment des prémices de la résurrection, c'était moins évident pour eux, c'était loin d'être une pensée prise pour acquis chez eux, quelles que soient les paroles qui se trouvaient dans les Écritures et ce que Jésus aurait pu leur dire en chemin. Eux, ils avaient certaines attentes en ce qui concernait Jésus, en ce qui concernait le Messie, comment le Messie devait accomplir sa mission. Verset 21, nous avons lu, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées et qu'il est mort. Et finalement, leurs espoirs avec lui. Et même quelques temps après, ils n'avaient encore pas tout à fait compris comment Jésus allait accomplir sa mission. Parce que dans Actes chapitre 1, verset 6, après la résurrection, le jour où Jésus va monter au ciel, les apôtres réunis lui demandèrent « Alors Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils n'avaient toujours pas tout à fait compris le plan de Dieu. Et donc, ils étaient déçus de voir que tous leurs espoirs que Jésus allait établir le royaume de Dieu sur la terre étaient en train d'évaporer et qu'eux, ils restaient là. Et que voilà, quelqu'un lui vient leur dire, mais Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant. Donc même après la résurrection, ils avaient encore du mal à croire, tellement c'était quelque chose de radicalement différent de ce dont ils étaient habitués, tellement c'était radicalement différent même de leurs attentes, de ce que Jésus devait faire en tant que Messie. Ils avaient du mal à intégrer cette notion que Jésus, qui venait de voir mourir sur une croix, pourrait être vivant à nouveau. Bon, on a l'exemple célèbre de Thomas. Tout à l'heure, donc, Alain nous a fait la lecture de l'histoire de Thomas dans Jean chapitre 20, qui dit que jusqu'à ce que moi je touche ses blessures, je ne croirai pas que ce que vous avez vu, c'est réellement Jésus ressuscité. Mais si on est honnête, c'était pareil pour tous les disciples. Là, nous avons lu à plusieurs reprises dans notre texte ce matin qu'ils avaient du mal à y croire. Ils ne croyaient pas aux femmes qui sont venues dire que Jésus était ressuscité. Que même lorsque Jésus apparaisse au milieu d'eux, ils croient voir un fantôme. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Jésus doit leur dire, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Et même lorsque il leur montre ses mains et ses pieds, même s'ils étaient joyeux dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et Jésus va leur dire, bon, donnez-moi quelque chose à manger et je vais vous montrer que je suis vivant au milieu de vous. Pareil dans Marc chapitre 16, versets 9 à 14, nous lisons « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. » et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Et donc, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, ce que nous venons de lire. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Et enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et même si on dit que les disciples n'ont pas cru aux femmes qu'ils avaient vues les premiers, même ces femmes avaient eu besoin que les anges leur expliquent ce qui était en train de se passer pour croire qu'il était ressuscité. Et encore, vu que justement Marie dans le jardin, même lorsque Jésus ressuscité lui parle, croit que ça ne peut pas être Jésus, ça doit être le jardinier qui lui parle. Et même après que les anges aient dit « Il n'est point ici, il est ressuscité », elle dit au jardinier « Mais dites-moi où vous avez mis le corps ?» Elle n'arrive toujours pas à croire que Jésus est ressuscité. Pour nous, par contre, comme je disais, pour nous, c'est une évidence que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? On n'a aucun souci, 2000 ans plus tard, de dire, bah oui, Jésus est ressuscité, et comme dit Paul aux Corinthiens, il est apparu à plusieurs personnes. Il n'y a plus que des non-chrétiens ou ceux qui tiennent une théologie ultra-libérale qui pourraient mettre en doute la résurrection de Jésus. Si on croit à la foi telle qu'on le trouve dans la Bible, la résurrection de Jésus est une réalité centrale, fondamentale au message de l'Évangile. Justement, Paul explique aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » Donc, Paul dit, « Ce message par lequel vous trouvez le salut, c'est le message que Christ est réellement mort pour nos péchés. » Il dit, « Il est mort, il n'y a pas de doute, on l'a enseveli, et c'est uniquement au troisième jour qu'il est ressuscité, mais aussi, tout aussi important, il est réellement ressuscité, et nous en avons la preuve. Vous pouvez aller parler avec les personnes qui ont rencontré Jésus ressuscité, dit l'apôtre Paul. Il va dire, si vous ne croyez pas à cela, vous aurez cru en vain. Et un peu plus loin, il dit, si Christ n'est pas réellement ressuscité, tout ce qu'on vous raconte, c'est des mensonges qui ne servent à rien, c'est juste des histoires. Et à ce moment-là, vous êtes toujours dans vos péchés, vous êtes toujours sans espoir, vous êtes toujours sur ce chemin qui mène à la mort éternelle. Mais, comme il a dit un peu plus loin, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. Nous croyons donc que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Nous le proclamons par nos paroles, par nos chants, même jusqu'à nos croix vides décoratifs. Si la croix est vide, c'est parce qu'on croit que Jésus est mort, qu'on l'a descendu de la croix, qu'on l'a posé dans le tombeau, mais que même le tombeau après est vide. On n'a donc aucun souci à croire à cette doctrine qui nous annonce que Jésus-Christ est ressuscité. Mais comme toujours, proclamer quelque chose dans nos chants, dans nos prières, dans nos décorations, représente la partie facile. Après, il y a la question de la réalité de ma vie. Est-ce que dans ma vie quotidienne, est-ce que je vis à la lumière du fait que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Est-ce qu'au-delà de mes chants, de mes prières, de mes croix vides, ma vie proclame que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Ou est-ce que je vis comme si Jésus se trouvait toujours parmi les morts? Non pas, bien évidemment, en disant qu'il est toujours sur la croix ou qu'il est toujours dans le tombeau, mais en enfermant Jésus-Christ dans l'histoire, comme n'importe quel autre personnage de l'histoire qui aurait vécu sur la terre et puis qui est mort. Je vous ai parlé plus d'une fois de du message qu'un prédicateur nous a apporté lorsque nous étions dans l'église en France, où il avait introduit son message en demandant que tous ceux qui connaissaient Napoléon lèvent la main. Bon, il y avait quelques personnes qui, faire une histoire, ont levé la main, et il a dit « Vous mentez. Vous connaissez des choses sur Napoléon, mais à vous voir, vous n'êtes pas d'un âge qui vous permet d'avoir connu Napoléon. » Parce que Napoléon est mort. On peut donc connaître des choses sur lui. On peut lire des livres sur sa vie, mais on ne peut pas le connaître. Jésus-Christ, par contre, c'est autre chose. Parce qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et nous pouvons donc le connaître. Mais parfois, nous pouvons dire le connaître et encore vivre comme si il était tout aussi mort que Napoléon, ou Jules César, ou qui que ce soit d'autre de l'histoire. Où le fait que Jésus-Christ soit ressuscité ne se reflète pas, n'influence pas ma manière de vivre, ne transforme pas la réalité de ma vie. Actes, chapitre 25, verset 18, c'est intéressant de voir que lorsque Paul est emmené devant les gouverneurs romains pour se défendre, le gouverneur romain est surpris et il dit « L'argument n'a pas du tout pris les tournures que j'imaginais. » Il dit « Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être vivant. » Le gouverneur romain dit, j'ai du mal à saisir quel est vraiment le problème et pourquoi il se trouve là. Si je comprends bien le vrai débat sur le fait que eux ils disent que Jésus est mort, et d'ailleurs j'ai des rapports des soldats qui disent la même chose, mais l'apôtre Paul dit que non, il est vivant. Est-ce que ma vie proclame que Jésus est vivant? Ou est-ce que, pour moi, Jésus est encore un personnage de l'histoire, même s'il est le personnage le plus important de l'histoire qui est venu mourir sur la croix pour moi? Mais comme nous venons de lire au moment de la Sainte Cène, oui, il est mort pour nos offenses, mais il est aussi ressuscité pour notre justification. Nous sommes censés donc vivre dans une relation vivante avec Jésus-Christ qui est réellement ressuscité, qui est vivant. Ça rappelle l'histoire qui est racontée du prédicateur en plein air qui était en train de proclamer que Jésus-Christ est vivant. Et quelqu'un lui dit, mais comment sais-tu que Jésus-Christ est vivant? Et il a dit, parce que je viens de passer une demi-heure à parler avec lui. Jésus-Christ est quelqu'un de vivant avec qui nous pouvons vivre une vraie relation vivante parce qu'il est vivant et il est vivant avec nous. C'est important de se rappeler que c'est après la résurrection. Quand Matthieu 28, verset 20, Jésus est dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce qui veut dire que si on s'est approché au Jésus vivant, nous ne sommes jamais tout seuls. On ne devrait jamais vraiment souffrir de solitude ou avoir peur de se trouver tout seul parce que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus n'est pas quelqu'un qui est mort, enterré dans un tombeau de l'histoire. Il est celui qui est sorti du tombeau. Il est celui qui est les prémices d'entre les morts. Donc comme Clément nous l'a rappelé en introduction ce matin, peut-être on oublie qu'il est là. mais il a promis d'être là avec nous tous les jours. Et nous pouvons donc vivre dans cette réalité d'avoir sa présence avec nous en toutes circonstances. Sa présence pour nous rassurer, sa présence pour nous entourer, sa présence pour nous consoler, sa présence pour parler avec nous. Parce que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, parce que je suis celui qui était mort, et voici maintenant je suis vivant. C'est après la résurrection que l'apôtre Jean a pu dire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous vivons en communion dans une relation avec lui, parce qu'il est vivant. Parce qu'il est, selon Hébreux 13, 8, ce Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il n'est plus mort, il est ressuscité, il est sorti du tombeau et il est là, entré dans notre vie, à côté de nous, avec nous, en nous, par son esprit. Nous sommes donc invités à l'intégrer dans notre vie en tant qu'être vivant, à tel point que finalement notre vie tourne autour de lui. Je souligne souvent, mais justement lorsque, avec Véro, on était en train de faire notre préparation au mariage, on s'est dit, tu seras la deuxième personne de ma vie. Deuxième après Jésus-Christ. Parce que notre relation avec Jésus-Christ doit être tout aussi réelle, tout aussi importante, tout aussi impactante que notre relation avec notre conjoint. Parce qu'il n'est pas un personnage de l'histoire enfermé dans un tombeau, mais il est quelqu'un de vivant, sorti du tombeau, ressuscité, qui vit avec nous aujourd'hui. Je suis donc invité à parler avec lui. Et à me mettre à son écoute, parce qu'il est vivant, et parce qu'il veut que je lui parle, et parce qu'il veut pouvoir me parler, parce qu'il veut que je sois en communion avec lui. Je peux croire donc qu'il va faire tout ce qu'il a dit, qu'il va faire dans ma vie tout ce qu'il a promis, parce que il n'est pas enfermé dans l'histoire, mais il est là avec moi, dans le présent. Je peux croire qu'il va agir par son esprit dans ma vie, dans les situations de ma vie, parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est là. Romains 8, 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est pour ça qu'on a pu chanter tout à l'heure « Veux-tu briser du péché le pouvoir ? La force est en Christ, si dans ton cœur tu veux le recevoir. » Parce que celui qui le reçoit dans son cœur, la Bible nous dit qu'il envoie son esprit pour faire ce liaison entre nous et lui, et que donc cet esprit nous aidera donc à marcher par l'esprit, à connaître cette vie de l'esprit, à vaincre le péché et son pouvoir dans notre vie. Sinon, alors, tout en disant à tue-tête le matin de Pâques, Christ est ressuscité, finalement, je vis comme s'il était resté sur la croix. Mort pour moi, certes, mais où j'attends la fin des temps, où j'attends le jour de jugement pour que sa mort puisse transformer ma vie. Alors que la réalité, c'est que 3 jours après sa mort, il est ressuscité pour transformer ma vie, pour se montrer comme étant celui qui est vivant, pour se montrer comme celui qui est présent à côté de ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, certes, parfois je me mets en jugement des disciples en disant « Ah, mais imaginez ça, ils n'avaient rien compris ces disciples. Ils n'arrivaient pas à comprendre que Jésus-Christ soit sorti du tombeau. » Moi, parfois, je peux dire oui, Christ est ressuscité, mais je vis comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus est mort pour moi, mais sa résurrection n'a pas encore impacté ma vie. Sa résurrection n'a pas transformé ma vie. Je vis comme s'il était soit dans le tombeau, soit sur la croix, mais pas comme étant le Dieu vivant. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Qui veut dire qu'il est vivant, qu'il est là ce matin, qu'il sera avec nous aujourd'hui, qu'il sera avec nous demain, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour transformer notre vécu. Parce qu'il est réellement ressuscité. Alors regardons ce matin dans nos cœurs. Est-ce que la résurrection de Jésus est seulement une proclamation religieuse, une doctrine indiquée sur la confession de foi? Ou est-ce que dans ma vie, la résurrection de Jésus est quelque chose qui a réellement eu lieu et qui a impacté ma vie? Finalement, on revient à la question que les anges ont posée aux femmes lorsqu'elles se sont présentées devant le tombeau. Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Pourquoi vivre comme si Jésus était encore mort? Il n'est point ici, il n'est point dans le tombeau, il est ressuscité. Où est-ce que moi, je cherche Jésus? Est-ce que je cherche Jésus uniquement dans l'histoire biblique, uniquement dans les événements d'il y a 2000 ans? Ou est-ce que je permets à Jésus d'être quelqu'un de vivant à côté de moi, au centre de ma vie, qui transforme ma vie aujourd'hui? C'est ça le défi de la foi devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Croyons réellement que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et permettons au Jésus ressuscité d'impacter tous les domaines de notre vie. Si vous voulez, je propose qu'on puisse juste passer quelques instants devant le Seigneur à regarder dans notre propre cœur, dans notre propre vie. Est-ce que j'ai permis à Jésus ou Jésus-Christ ressuscité d'impacter tous les domaines de ma vie? Ou est-ce que je le cherche toujours parmi les morts de l'histoire?